écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, nouveau podcast Histoire. On est très heureux de recevoir Karim Louissi. Salut Karim.
Bonjour Leda.
Architecte, passionné d'histoire, case à mémoire, enfin plein de... Tu as beaucoup de casquettes et une seule tête.
Ouais, voilà.
Alors, on t'a convoqué, c'est qu'on convoque les gens maintenant qu'on a la possibilité de le faire. Parce qu'en fait, l'histoire, les dynasties, les pouvoirs qui sont succédés sur notre... territoire géographique, on laissait en particulier une chose qui est marquante, que les gens peuvent voir aujourd'hui, c'est des bâtiments, des choses, des murs, des édifices. Et aujourd'hui, ces édifices au Maroc sont beaucoup visités par les touristes, par les Marocains, sont un peu l'identité visuelle du Maroc. Quand on va dans un pays, ben, on va voir les vieux bâtiments et on découvre comment ces gens-là ont vécu et qu'est-ce qu'ils ont construit. Alors, c'était important pour nous, on s'est rendu compte qu'on ne l'avait pas fait, alors que c'est un sujet tellement évident qu'on aurait peut-être dû le faire il y a longtemps, de se promener dans les dynasties. Et que tu nous expliques avec ton œil d'expert, toi qui connais à la fois l'histoire et l'architecture, quel a été le style architectural de ces gens-là et pourquoi ils nous ont laissé ce qu'ils nous ont laissé.
Lourde tâche, Reda. D'abord, en fait, je vais intervenir pas en tant qu'historien, parce que je suis pas un historien de l'architecture, mais en tant qu'architecte. L'idée, c'est d'essayer de décortiquer ensemble, sans trop rentrer dans le détail pour rester un peu...
Donne-nous des clés, en fait. Nous qui nous promenons...
Des clés de lecture pour comprendre et pour savoir, en fait, d'abord, en fait, toute architecture...
Et politique.
Et elle est même pas politique, en fait. Toute architecture est la résultante d'un contexte politique, social, économique, culturel, climatique. Et donc, en fait, toute architecture est l'imbrication de tous ces éléments-là pour être construite et pour perdurer dans le temps. Après, il y a des bonnes architectures, des architectures moins intéressantes. Alors, aujourd'hui, on va parler des Almoravides, on va parler plus tard des Almohades. Et en fait, c'est...
Avant, il n'y a pas suffisamment de matériaux pour parler du pré-islamique. On n'a pas... style, quoi.
On pourra parler des Idrissides, mais en fait, je tiens à commencer par les Almoravides et les Almohades, parce qu'en fait, on est dans quelque chose qui naît du terreau, en fait, qui naît du sud. En fait, on est dans notre terrain, mais on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire on est dans deux dynasties berbères, Msmouda pour les uns, Snahaja pour les autres, et en fait, deux tribus berbères qui ont un savoir-faire et une architecture locale qu'ils maîtrisent. Et puis, en fait, ils vont être influencés à la fois par ce qui arrive d'Andalousie, donc en fait, ce qui s'installe en Andalousie, à la fois par ce qui se passe en fait en Orient, et donc par toute cette architecture islamique qui naît en Syrie, mais aussi en fait par tout ce qui se passe à Bagdad et puis au-delà en Asie musulmane. Donc on va voir en fait cette architecture qui va être une sorte d'imbrication de tous ces courants stylistiques.
Et avec quand même une forte couleur locale. Sent quand même très fort...
Alors le propre de ces deux dynasties, c'est que ça commence, comme politiquement, ça commence par une rupture. Et donc, en fait, ça commence par une rupture et une grande rigueur. Et donc, en fait, cette rupture et cette rigueur fait qu'en fait, on coupe avec le passé et on se consacre sur l'essentiel. C'est-à-dire, on oublie la décoration, on oublie le superflu et on s'intéresse uniquement à l'architecture pure. On le voit d'abord avec les Almoravides qui, sous le règne de Yusuf Ibn Tashfin, vont réaliser une architecture simple, épurée. Donc, en fait, ils commencent par les rebats. Et puis, en fait, quand ils arrivent à Marrakech, ils commencent par la construction du Qsar al-Hajar. Donc, en fait, un bâtiment épuré dans une enceinte. Alors, sur les Almoravides,
Il y a une coupole à Marrakech.
Il y a des choses qui ont disparu, mais dans ce qui reste, il y a beaucoup de choses intéressantes. Notamment la fameuse coupole à Marrakech, on va en parler tout à l'heure, le Kouba ou le Kouba al-Baroudia. Et il y a aussi des choses en Algérie, la mosquée de Tlemcen, la grande mosquée d'Alger, qui sont almoravides. Donc en fait, il y a une première période où on est sur une architecture saharienne, simple,
sèche,
et épurée et costaud, en fait, monumentale. Alors quand on parle de monumentalité en architecture, beaucoup de choses participent à la monumentalité. La monumentalité, c'est d'abord une rigueur, une architecture symétrique avec des volumes qui se manifestent dans leur nudité. Et c'est aussi, en fait, une composition avec un jeu de volume, en fait, une sorte d'épuration stylistique. Plus tard, sous le règne de...
Un côté austère aussi. Dans le...
Bien sûr, bien sûr. C'est des bâtiments devant lesquels on se prosterne et on s'arrête. Et
on se sent un peu faible.
On réfléchit.
On se sent minable. Quoi.
On réfléchit deux secondes. Enfin, c'est pas des bâtiments faits pour l'échelle humaine. Donc, en fait, ouais. C'est des bâtiments écrasants.
Des bâtiments qui t'écrasent, ouais.
C'est des bâtiments écrasants et gigantesques. Des fois, même pas par leur mesure, mais juste par leur composition et leur proportion. C'est-à-dire, ça peut être... L'Arc Babarodia est un tout petit bâtiment, mais devant lequel on s'arrête quand même et on marque la pause. Et donc, en fait, dans un deuxième temps, on a des bâtiments qui sont plus décorés. Et là, en fait, on va avoir des empreintes stylistiques, notamment à l'architecture andalouse. Donc, la forme de la mosquée almoravide est une mosquée qui est inspirée de la mosquée de Cordoue et plus loin de la mosquée de Damas. Donc, en fait, c'est des mosquées avec une nef centrale et une nef perpendiculaire au niveau du mihrab, du mur de la Qibla. Donc ça, c'est une particularité, on appelle ça les mosquées en T. C'est une particularité qui va s'affirmer plus tard dans la mosquée de Tinmel avec les Almohades. Et donc, en fait, qui commence dès l'époque almoravide. Alors, la mosquée étant le centre du pouvoir religieux, donc en fait, la ville est construite autour de la mosquée. Ce qui est intéressant avec les Almoravides, et particulier, c'est la manière dont ils vont s'installer à Marrakech. Alors, contrairement aux autres villes qu'on connaît, Fès, Rabat, etc., où les villes s'installent toujours à côté d'un cours d'eau, parce que c'est important d'avoir l'eau, en fait, comme source de vie, à Marrakech, il y a des cours d'eau, mais en fait, ils ne sont pas importants. Et donc, en fait, on va travailler sur l'Ertarat, et donc on va ramener de l'eau de l'Atlas. C'est des systèmes de puits, et en fait, par système de puits qui se succèdent, et par altimétrie différente, donc en fait, par un système gravitaire, on arrive à ramener l'eau de très loin vers la ville. Et puis, cette eau, en fait, une fois arrivée dans la ville, il faut la stocker. Donc, les Almoravides, ils vont construire à côté de la Koupa, donc en fait, on a trouvé une grande citerne d'eau.
Un château d'eau.
Un citerne, en fait, une sorte de réservoir. Et donc, c'est à partir de ce réservoir qu'on va distribuer l'eau sur l'ensemble des quartiers. Donc, en fait, c'est le centre politique, le centre cultuel de la ville qui va être le réservoir d'eau. Et à partir de là, on va distribuer. Donc, en fait, au-delà de l'architecture, il y a aussi ce côté urbain très important. Et puis, les jardins qui vont entourer la ville et qui sont, en fait, des sources non seulement vivrières, mais aussi paysagères. Notamment, quand on parle aujourd'hui de la palmeraie de Marrakech, que cette palmeraie qui n'arrête pas de sublimer les visiteurs, etc. Donc c'est une palmeraie qui date de l'époque almoravide.
Donc Marrakech, elle est loin de l'eau. Est-ce que c'est une volonté politique de se mettre là-bas, à mi-chemin, entre peut-être, je ne sais pas moi, l'espace nomade dont ils viennent et l'espace plus urbain, pas urbain mais agricole du Nord? Ou c'est une erreur, ou c'est une... Parce que d'après ce qu'on a lu à droite à gauche, Youssef Nsechfine aurait acheté ce terrain aux tribus locales, et s'est installé en territoire Msmoudi alors que Wasnaji, s'est retrouvé à ramener de l'eau de très loin.
Alors
qu'Armet était prise, enfin je ne sais pas.
Je pense que c'est le choix du site qui va décider de là où on va construire la ville. C'est un site qui est proche de, enfin qui est sur un chemin commercial, en fait il est à côté de l'Atlantique, il n'est pas loin du Sahara. La question de l'eau est une question qui ne dérange pas les Snahaja parce qu'en fait, ils ont l'habitude de travailler avec l'Ertara. Ne sont pas des choses qu'on a inventées à Marrakech, mais qu'on a utilisées à Marrakech. Donc, on a utilisé un savoir-faire qui vient du Sud. Et ça, en fait, ça fait aussi une des particularités de ce pouvoir capable de gérer un territoire et de faire un urbanisme qui marche autour de la question de l'eau.
Donc, on est toujours sur les Almoravides. Alors, il n'y a pas beaucoup de décorations qui sont restées. Il y en a quelques-unes.
Alors, les Almoravides...
Dans le géométrique, un peu.
Alors, dans leur première période, ils sont très austères. Mais dans la deuxième période, avec l'arrivée de Ali ibn Youssef, commence la décoration. Ils ont fait venir des artisans d'Andalousie qui ont formé les artisans localement. Ils ont commencé à faire de la décoration. Donc, en fait, on a des bâtiments décorés, notamment avec des motifs floraux, un peu comme on fait historiquement dans l'architecture byzantine et puis après dans l'architecture de Damas et puis plus tard à Cordoue. Donc en fait, on va avoir des décorations avec des feuilles de palmier, un certain nombre d'éléments qu'on va retrouver. Il y a aussi les systèmes d'arcades. Donc en fait, on travaille avec des arcs à plein cintre, mais aussi des arcs à plein cintre outrepassés. Donc en fait, qui sont des éléments décoratifs et qui sont aussi des éléments Alors, je veux pas trop rentrer dans la technique.
Non, mais l'arc à plat cintre outrepassé. Le jour où on a créé Radio Ma'alif avec mon ami Hamza, on pensait pas qu'un jour, à notre micro, on parlerait, parce qu'au début, on était sur le foot, hein, d'arc à plein cintre outrepassé.
Alors,
voilà. Non, les clairs, je n'explique même pas. Google est votre ami. Continue.
Faut oui, mystère. Et voilà, donc en fait, ils travaillent sur des systèmes d'arcade très intéressants. Il n'y a pas de chapiteau chez les Almoravides, contrairement aux Almohades, mais il y a aussi beaucoup de décorations. Donc en fait, on va décorer sur du plâtre, sur du marbre, sur du bronze. Donc en fait, il y a beaucoup de motifs. En fait, la nature a horreur du vide chez eux. Donc en fait, ils vont tout décorer dans cette deuxième période.
Donc la deuxième période est moins austère que la première.
Et moins austère que la première.
Et les Almohades vont revenir à l'austérité.
Exactement. Voilà. Et repartir vers l'opulence.
Ouais, donc, c'est Ibn Khaldoun.
C'est l'Asabi al-Qabaliya chez Ibn Khaldoun, la première génération qui arrive au
Sénat. La deuxième qui sont bourgeoises, la troisième qui perd le pouvoir.
Exactement, exactement. Donc en fait, on peut lire ça à travers effectivement l'architecture et la décoration. Alors, autre chose qu'ils vont amener là, une fois d'Orient, c'est le Muqarnas. Le Muqarnas, c'est des sortes de stalactites qu'on va retrouver dans les coupoles. Et contrairement au premier Muqarnas qu'on va retrouver en Asie et qui sont structurels, là, en fait, les Muqarnas sont juste des écrans en plâtre, donc en fait, juste décoratifs, donc des sortes de coupoles qu'on va utiliser à l'intérieur et avec lesquels on va décorer les bâtiments. Et notamment, en fait, cette nef perpendiculaire parallèle au mur de la Qibla, donc en fait, qui est au niveau du mur de la Qibla, où en fait, on va retrouver des coupoles sculptées. Il y a aussi de la sculpture sur bois. Et
Alors, je t'arrête sur la sculpture sur bois, si tu permets. Je vais faire mon Psafa Kadiri, s'il n'est pas là, mais il m'a bien rempli la tête. Quand on a l'habitude d'associer systématiquement le raffinement au ma'almin andalou et l'austérité au ma'almin africain, disons, pour parler rapidement, disons en tout cas de maghrébin, lui, il a l'habitude de dire que c'est une construction également mentale, parce qu'il te dit, par exemple, le bois de cèdre, qui est présent dans les, je pense, des bâtiments andalous, le cèdre, il n'y a pas de cèdre en Espagne, en fait. Le cèdre vient de l'Atlas. Donc, en fait, peut-être que le savoir-faire n'est pas systématique. Or, ce savoir-faire, donc, était plutôt de ce côté de la Méditerranée. Et on a parfois tort de systématiquement assimiler le raffinement à l'Europe et la formation comme venant d'Europe. Il y a des savoir-faire qui étaient là et qui ont terminé en Europe. Enfin, ça peut se passer dans les deux sens. Voilà ce que j'essaie de dire.
Ce qui est important, c'est qu'il y a eu une synthèse. C'est ça ce qui serait important de garder. Et dans cette synthèse, ben, il y a eu des techniques nouvelles, il y a eu un travail nouveau, un style nouveau, une écriture nouvelle. Donc en fait, il y a tout un travail qu'on va retrouver. En fait, c'est quand on parle de l'architecture islamique, donc en fait, l'architecture de l'Occident islamique est particulière et elle n'est pas uniquement andalouse.
Bien sûr.
À la fois
Andalouse, c'est
un brassage, c'est des courants stylistiques et on a parlé des techniques d'eau aussi, c'est des choses qui arrivent du sud. Et donc c'est tout ça qui est mis en avant pour construire une civilisation et une forme, une expression architecturale. Après, toute civilisation, elle invente en fait, comme elle invente sa gastronomie et ses champs, etc., elle invente son architecture. Donc en fait,
elle peut suffire à elle-même, c'est-à-dire que l'architecture Almohad peut être un tampon.
Exact.
Voilà.
Exact.
On devrait la vendre comme ça.
Non, mais
on devrait la vendre comme ça.
Mais dans ce tampon.
Comme gothique.
Mais dans ce tampon, il a des.
Des influences, bien sûr.
Il y a des influences, ouais. Et puis il a influé d'autres styles.
Bien, donc sûr,
c'est,
bien sûr.
Ça va dans les
ensembles. Bien sûr.
Ça va dans les ensembles.
Passons aux Almohades. Alors pareil, donc ils arrivent, ils
alors les
cassent tout. Ils veulent casser Marrakech.
À commencer par tout ce qui est Almohade.
Almoravide,
pardon.
Ils veulent tout casser.
Ouais. Ils commencent par casser.
Ils expliquent comme la même Gaddesh.
Exactement. Et à partir de là, en fait, ils commencent sur un nouveau registre. La différence centrale entre Almoravide et Almohade, c'est que là où les Almoravides, dans l'apogée, dans la deuxième période, ils s'intéressaient plus à la décoration. Les Almohades, en fait, c'est des constructeurs.
Ah oui.
Donc, en fait, il y a...
Et il faut rendre gloire à la solidité de leurs constructions qui sont encore debout.
Exact.
Voilà, il faut le dire. Les murs de Marrakech,
et surtout,
la Koutoubia.
Et surtout que, par exemple, des Almoravides, on n'a quasiment pas de minarets.
Non.
Alors que les Almohades, les minarets, ils tiennent toujours. Et dans des contextes géographiques complètement différents.
Mais je vais aller plus loin. Pour moi, les Almohades, c'est presque l'identité visuelle du Maroc touristique. C'est-à-dire que quand on imagine une mosquée marocaine, pour moi, C'est la Koutoubia, celle de Tinmel, c'est cette forme-là qu'on a en tête.
Alors, la mosquée justement de Tinmel, qui a été l'archétype de cette architecture, donc en fait, c'est là où ils ont fait
la matrice.
La matrice, et cette matrice, je reprends le terme, elle a été dupliquée après, et même les autres dynasties, elles prennent beaucoup à cette écriture.
Oui, c'est le style marocain, j'ai envie de dire. Mais c'est le même bonhomme.
Et donc en fait, c'est une architecture qui au départ, elle aussi était austère, rigoureuse, simple, tawhid. C'est une architecture qui a utilisé à la fois des matériaux nouveaux, parce qu'en fait, là, on travaille avec de la brique de terre cuite, on travaille avec des matériaux nouveaux, mais en même temps, avec du pisé, avec des choses qui sont plus anciennes. Et en fait, cette architecture, avec des volumes, alors non seulement purs, mais gigantesques, donc en fait, on est arrivé à des dimensions importantes. La mosquée de Hassan à Rabat,
oui,
aurait été la plus grande mosquée de 100 ans. Elle n'a pas été finie, mais en fait, c'est une mosquée gigantesque. La mosquée de Tinmel est plus modeste, mais au-delà de ça...
On va citer les mosquées, hein, que tu me contredis ici. Marrakech.
Oui, Koutoubia.
Séville.
Séville, bien sûr.
Rabat.
Tinmel.
J'en ai oublié.
Tsaza.
Il y a une mosquée al-Mohad.
Bien sûr. Mosquée al-Mohad. Voilà. Et puis
après, les murs.
On a en Algérie, il y a des minarets, il y a des choses qui ont été
les remparts
de
Rabat.
Bien sûr. Marrakech. Toute l'architecture militaire al-Mohad est une architecture remarquable. Donc il y a beaucoup de bâtiments significatifs. Là aussi, en fait, on est dans une première période très sobre, très austère. Mais en fait, ce qui est bien avec les al-Mohad, c'est même quand il y a de la décoration, la décoration ne dépasse jamais le volume et l'architecture. Donc en fait, on voit toujours cette forme architecturale qui est le souci majeur. C'est-à-dire quand on est devant un minaret al-Mohad, on arrive à lire les formes géométriques, à lire la pureté de la forme, et c'est d'un tracé régulateur et d'une géométrie parfaite. Donc en fait, on est toujours dans des proportions et des géométries très... c'est des sortes de recettes. Ils ont canonisé un peu leur bâtiment. Donc en fait, la hauteur, la largeur, il y a toujours des proportions qui...
Mais est-ce que c'était formalisé, ça? Non.
Oui, bien sûr.
C'est formalisé. Donc, est-ce qu'on a le nom, par exemple, de ces architectes?
Non. On n'a pas le nom des architectes, mais on a pas mal de textes historiques sur l'architecture et al-Mohad et al-Moravid. Donc on a des textes qui permettent en fait de... Ben en fait, des textes certainement écrits par des gens qui étaient chargés de la construction et qui expliquaient en fait où en étaient les ouvrages ou qu'est-ce qu'ils prétendaient construire, des descriptions techniques d'un certain nombre d'ouvrages.
Oui, donc on n'est pas dans l'informel pur et dur.
Non, il y a des textes qui existent. Maintenant, il y a très peu de recherches et encore très peu de recherches à l'échelle nationale sur ces architectures, mais il y a du travail, il y a des choses à aller encore expliquer et comprendre.
D'accord. Est-ce que tu peux nous parler des décorations qui sont quand même très souvent, par exemple cette Koutoubia, qui a quatre faces différentes, si je ne me trompe pas, et donc les quatre faces du minaret, qui sont chacune
travaillées
différemment.
Il y a d'abord les arcades, en fait. On voit les arcades, il y a les fameux entrelacs, en fait, les éléments en pierre sculptés. Il y a aussi la brique qui permet, en fait, de beaucoup travailler sur la géométrie et la décoration au niveau des façades du minaret. Et puis, il y a aussi à l'intérieur beaucoup de sculptures, sur plâtre, et dans les arcades, il y a ce qu'on appelle les S, donc en fait les éléments avec lesquels ils finissent les arcades, et ces S en fait ils sont d'emprunt marocain, en fait c'est quelque chose qu'on retrouve dans antérieur à l'architecture islamique au Maroc. Donc en fait c'est des éléments décoratifs. Donc il y a
des éléments décoratifs qu'on retrouve, il y en a d'autres qu'on retrouve aussi sur les tapis. Enfin, je sais pas si je suis à côté de la plaque, mais parfois j'ai l'impression qu'il y a même des dessins géométriques sur les tapis
je saurais pas dire si c'est antérieur ou postérieur.
Mais on
retrouve un certain nombre d'éléments décoratifs effectivement qu'on peut retrouver géométriques qu'on peut retrouver dans le tissage.
Est-ce que les Almohades ont influencé des gens?
Oui, les Almohades ont influencé des gens. D'abord les dynasties qui viennent après, et puis en fait, même en Europe. C'est en fait, quand on va voir l'art qui va être postérieur à la période islamique et la Reconquista en Espagne, on parle de l'art Almodóvar. Almodóvar qui veut dire Almudejjen. Donc en fait, c'est une sorte d'architecture islamique domestiquée.
D'accord.
Donc en fait, on va reprendre en fait ce langage architectural emprunté aux dynasties islamiques en Andalou, qu'on va retravailler, auquel on va rajouter d'autres éléments. Il y a aussi le travail sur les indiges, etc., qui évolue, en fait. Que nous, en fait, à la base, on a pris des Romains, etc., sous des formes différentes. Mais après, qu'on va retrouver la continuité en Espagne, au Portugal, etc. Donc, il y a effectivement des échanges culturels qui se passent entre ces architectures almohades et ce qui se passe en Europe à cette période.
Alors, si vous voulez vous convaincre de l'importance de l'héritage almohade, vous pouvez vous promener dans les boutiques à touristes, que ce soit Séville, même à Valence, l'aéroport de Valence, par exemple, j'étais cet été, et vous allez vous rendre compte que ce qu'on vend comme identité visuelle, comme souvenir, et vous allez très souvent trouver une petite signature almohade derrière tout ça. Donc, ces gens ont forgé, j'ai envie de dire, presque l'identité visuelle de deux pays, voilà, et avec du solide.
Et alors juste deux pays, je tiens à reprendre.
Trois.
Même plus.
Quatre, pardon.
Je te laisse
cinq. Bien sûr, cinq. Il y a tout le Maghreb et je te rajoute le Portugal, l'Espagne. Ça fait donc déjà cinq. Et peut-être même la Mauritanie.
Et bientôt la Coupe du Monde.
Exactement. C'est la Coupe du Monde Al-Mohad. Voilà. C'est Al-Mohad 2030. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui caractérise les dynasties, l'architecture de ces dynasties, ce qu'on appelle dynastie Amazigh, c'est-à-dire Al-Moravid, Al-Mohad, c'est dans ce podcast. Merci, Kelly.
Merci, Reda.
Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.